Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonjour Aurélie.
Bonjour à tous. Un attentat visant des installations militaires déjoué cette semaine. Trois hommes sont encore en garde à vue. L'un d'eux entretenait des relations avec des djihadistes. Florence Turne nous en dira plus.
Le Parlement grec a voté cette nuit. Il approuve les réformes imposées par les créanciers malgré la défection de députés de Syriza. Reportage d'Angélique Kourounis à Athènes.
Nous reviendrons aussi sur les débats sur la Grèce au Parlement français. Ils ont mis en évidence des divisions au sein des partis, nous dira Stéphane Robert.
Et puis Barack Obama défend vigoureusement l'accord sur le nucléaire iranien et le président américain cherche à rassurer les Israéliens inquiets pour leur sécurité. Nous joindrons Frédéric Carbone à Washington.
François Hollande l'avait annoncé hier en fin d'après-midi. Bernard Cazeneuve l'a confirmé dans la soirée. Un attentat a été déjoué sur le sol français. Quatre personnes soupçonnées de vouloir s'attaquer à des installations militaires ont été interpellées cette semaine et trois sont toujours en garde à vue. Bonjour Florence Turme.
Bonjour.
Ces arrestations ont été précédées, selon le ministre de l'Intérieur, d'un travail d'enquête très minutieux.
Oui, les quatre personnes interpellées faisaient l'objet d'une surveillance étroite depuis quelques semaines, notamment à travers des conversations suspectes et cryptées sur les réseaux sociaux. Trois d'entre elles, qui restent ce matin placées en garde à vue, avaient apparemment l'intention de s'en prendre à une base militaire du sud de la France et, selon certaines sources, d'organiser et de filmer la décapitation d'un gradé. Projet programmé pour la fin de l'année 2015 ou début 2016, mais la décision d'interpeller les quatre jeunes gens lundi aurait été motivée à la fois par leur cible potentielle et l'approche du 14 juillet. C'est aussi le résultat d'un travail minutieux, indiqué hier soir Bernard Cazeneuve.
Le principal instigateur avait été repéré pour son activisme sur les réseaux sociaux et dans le relationnel de djihadistes français aujourd'hui incarcérés. Il avait également été signalé aux autorités du fait de ses velléités de départ en Syrie. Il avait fait l'objet d'un entretien administratif. L'attention des services est demeuré très soutenu depuis.
Et ce n'est sans doute pas un hasard si le ministre de l'Intérieur a choisi de communiquer aussi rapidement hier dans la foulée de François Hollande à Marseille, en soulignant l'efficacité du travail des policiers de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. À plusieurs reprises, le renseignement français a été pointé du doigt pour ne pas avoir repéré en amont les auteurs des attentats de janvier et celui du mois dernier en Isère.
Merci Florence Turme. Pas de lien a priori entre cette affaire et les explosions survenues sur un site pétrochimique proche de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Les explosions sont bien criminelles. Des dispositifs de mise à feu ont été retrouvés, mais on ne connaît pas la motivation des auteurs de cet acte. 721 voitures brûlées et 603 personnes placées en garde à vue, c'est le bilan des soirées du 13 et du 14 juillet pour le ministère de l'Intérieur. Face à la hausse des dégradations, les forces de l'ordre ont appliqué la tolérance zéro, souligne-t-on place Beauvau. Effectivement, le nombre des gardés à vue a bondi de 68% par rapport à l'an dernier. Le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises d'Ömer Güney, un jeune turc de 32 ans, pour l'assassinat en janvier 2013 de trois militantes kurdes dans la capitale. Leur corps avait été découvert dans des locaux d'une association près de la gare du Nord. Selon des sources proches du dossier, les enquêteurs soupçonneraient aussi des agents des services secrets turcs, Catherine Dutu.
Les familles des victimes avaient d'emblée dénoncé un crime en partie ourdi depuis la Turquie. Les enquêteurs ont, eux, écarté au fil de leurs investigations les pistes de crimes crapuleux de différents personnels, de règlements de comptes internes au PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, ou d'actes commis par les loups gris, le groupe d'extrême droite turc. Une question lancinante: d'éventuels agents du MIT, les services secrets turcs, auraient-ils participé à l'assassinat de Fidan Dogan, de Leyla Saylemez et de Sakin Kansiz? Ces trois femmes avaient été retrouvées dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013, exécutées de plusieurs balles dans la tête. Sakin Kansiz, 55 ans, l'une des fondatrices du PKK, aurait été la principale cible de ces crimes, intervenue selon des médias turcs au moment où Ankara et le PKK négociaient un arrêt des hostilités. 45 000 morts depuis 1984. Ces trois crimes, une manière peut-être de nuire au processus de paix. L'an dernier, les services de renseignement turcs démentaient toute implication. C'était après la divulgation d'un enregistrement supposé entre Ömer Güney et des agents secrets turcs. Aujourd'hui, seul Ömer Güney devrait comparaître devant les assises spéciales de Paris si les juges antiterroristes suivent le parquet. Selon une source proche du dossier, il est établi que Ömer Güney avait une activité d'espionnage avérée et qu'il a eu de nombreux contacts secrets avec des individus se trouvant en Turquie. Face à la thèse d'un agent infiltré dans les milieux kurdes en service commandé pour l'État turc, Ömer Güney clame lui son innocence.
Le projet de Center Park de Roibon est illégal. Le tribunal administratif de Grenoble doit le dire aujourd'hui. Le rapporteur public a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant le chantier. Nous reviendrons sur ce dossier dans le journal de 9h avec Stanislas Vazak. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, lors des commémorations de la rafle du Veldiv en 1995, Jacques Chirac reconnaissait la responsabilité de l'État français dans la déportation de juifs vers les camps de concentration et d'extermination nazis. Ce discours, à l'époque, a fait l'effet d'un tremblement de terre et aujourd'hui, Élodie Forêt, il a toujours des conséquences.
Le ton est solennel, les mots tranchants.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par l'État français.
Ce discours de Jacques Chirac ouvre une nouvelle ère. La France regarde enfin son histoire dans les yeux et commence à indemniser les survivants de la déportation. Un processus qui arrive seulement à son terme avec l'accord trouvé entre la France et les États-Unis, accord adopté par le Parlement la semaine dernière. La France va créer un fonds de 60 millions de dollars géré par les Américains pour indemniser les victimes étrangères qui n'ont jamais reçu de pension. La boucle est bouclée mais non sans difficulté. Pour certains députés, ce texte impliquait une continuité entre Vichy et les gouvernements d'après-guerre, nous plaçant à un même niveau de responsabilité que l'Allemagne. Jacques Frege est directeur du mémorial de la Shoah.
Pour certains, accepter que la France soit dans le camp de ceux qui étaient les alliés de l'Allemagne, c'est difficile encore à accepter et à digérer. Simplement, la réalité, c'est que la France, elle était à Londres, elle était à Vichy et elle était dans la résistance. Et donc, il faut accepter l'idée que la France, elle a été plurielle pendant cette période et que finalement, la démocratie a heureusement gagné. C'est absurde aujourd'hui, après la déclaration de Chirac, après tous les travaux historiques qui ont été faits depuis, de revenir à cette discussion complètement surnaturelle. Certains hommes politiques pensent que cette remise en cause permanente bénéficie à la France, alors qu'au contraire, depuis 20 ans, je crois que la France a montré qu'elle était capable d'affronter son histoire et son passé.
Et pour continuer à affronter notre histoire, de nombreuses commémorations sont prévues dans les jours à venir pour le 73e anniversaire de la rafle du Veldiv.
L'accord sur le nucléaire iranien ne fait pas plaisir à tout le monde. Barack Obama doit encore convaincre le Congrès américain de l'intérêt de lever les sanctions économiques contre Téhéran. Depuis la Maison-Blanche hier, il a donné une conférence de presse pour répondre à toutes les critiques et interrogations. Mais le président américain doit aussi faire face à l'opposition du gouvernement israélien inquiet pour la sécurité d'Israël. À Washington, la correspondance de Frédéric Carbone.
Il est de plus en plus difficile de s'entendre avec Benjamin Netanyahou, mais il n'est pas question de remettre en cause l'alliance stratégique avec Israël. Voilà l'équilibre délicat que s'efforce de maintenir Barack Obama. Le président américain décrit désormais le premier ministre israélien comme un homme isolé qui n'admet pas l'avis de 99% des experts et qui ne propose aucune alternative sérieuse. Il met en garde aussi les élus du Congrès, ne vous laissez pas influencer par tel ou tel lobby. Voilà donc l'ami israélien ouvertement marginalisé dans le dossier du nucléaire iranien. Mais dans le même temps, Barack Obama envoie son ministre de la Défense en Israël. S'il le faut, les États-Unis sont prêts à fournir de nouveaux équipements militaires. Même Benjamin Netanyahou le reconnaît. Dans ce domaine, l'aide américaine s'est renforcée ces dernières années et la récente guerre de Gaza a démontré l'efficacité du bouclier antimissile. Soutien sans faille, par conséquent, à un pays et à un peuple, même en temps de brouille avec ses dirigeants. Cela ne suffira toutefois pas pour calmer les républicains qui accusent déjà Barack Obama de brader une amitié historique et d'offrir aux Iraniens, avec la levée des sanctions, des centaines de millions de dollars pour armer les ennemis d'Israël.
Les États-Unis ont soumis au Conseil de sécurité une résolution pour entériner l'accord sur le nucléaire iranien. Elle pourrait être adoptée dans les prochains jours. Le gouvernement égyptien révise un article controversé de son projet de loi antiterroriste. L'article 33 prévoyait la prison pour les journalistes contredisant les communiqués officiels évoquant l'armée, la police ou les appareils de sécurité. La peine est remplacée par une lourde amende entre 23 000 et 58 000 euros. Le syndicat des journalistes égyptiens proteste toujours. Il juge cette amende exorbitante. Les créanciers de la Grèce exigeaient de nouvelles mesures d'austérité avant de lui accorder un troisième plan d'aide. Le Parlement grec a approuvé cette nuit ces réformes impopulaires et ce malgré de vifs débats et l'opposition de certains députés de Syriza. Il y a eu 229 voix pour, 69 contre et 6 abstentions. Écoutez le reportage d'Angélique Kouronis à Athènes.
C'est très tard dans la nuit, à 2h du matin heure locale, que le Parlement a malgré tout adopté le plan de réforme imposé par les créanciers au pays, après plusieurs heures de débats houleux avec des députés néo-nazis déchirant le plan de réforme dans le Parlement, des figures emblématiques du Syriza, le parti de la gauche au pouvoir, appelant à voter non, et l'opposition conservatrice tirée à boulet rouge contre Alexis Tsipras. Mais à y regarder de plus près, là où on attendait un Syriza scindé en deux, un Premier ministre affaibli, avec en face de lui une société en colère, ses prévisions sont au final à revoir à la baisse. Certes, 32 députés du parti de la gauche radicale ont voté contre le plan de réforme, 6 ont voté présent et un député était absent. Certes, Alexis Tsipras a perdu sa majorité parlementaire sur ce vote. Certes, des échauffourées ont éclaté devant le Parlement où 12 000 personnes manifestaient pour faire pression sur le vote. Mais 68% de Grecs soutiennent toujours Alexis Tsipras comme Premier ministre. Les frondeurs du Syriza également, tous ont précisé voter contre les mesures tout en soutenant le gouvernement. Enfin, si une quarantaine de personnes ont été arrêtées hier soir et que des échauffourées ont éclaté devant le Parlement, elles sont le fait de la gauche extra-parlementaire et d'organisations anti-autoritaires et non de mouvements politiques plus larges comme on le redoutait. Autant dire que la première étape de ce vote a été passée sans trop de casse pour Alexis Tsipras, qui a plusieurs reprises déclaré à l'intérieur du Parlement que ce plan était mauvais, qu'il n'y croyait pas, mais qu'il n'avait pas eu le choix. C'était ça, ou le Grexit désordonné. La prochaine étape maintenant, c'est appliquer ce plan pour pouvoir recevoir des liquidités de la part des créanciers et rouvrir les banques. Et ça, c'est nettement plus compliqué pour bon nombre d'économistes. C'est même juste impossible.
Les parlementaires français ont eux aussi évoqué le dossier grec hier. Assemblée et Sénat ont largement approuvé l'accord signé à Bruxelles pour maintenir la Grèce dans la zone euro. Les députés ont voté pour à 412 voix contre 69 et les sénateurs à 260 voix contre 23. Mais ces votes ont révélé des divergences d'opinion au sein même des groupes politiques, en particulier chez les Républicains. Le reportage de Stéphane Robert à l'Assemblée.
93 pour, 41 contre et 35 abstentions, la droite est apparue plus divisée que jamais sur ce vote. Il faut dire que le président de groupe à l'Assemblée avait laissé la liberté à chacun de voter en conscience. Pour autant, n'allait pas dire à les Républicains qu'ils étaient divisés sur la question. Ça les agace.
Quand on nous demande d'être le petit doigt sur la couture du pantalon, on nous dit que nous sommes des députés godillots. Et quand on permet le débat et à chacun de s'exprimer, de voter comme il le souhaite, on nous dit que c'est la division.
Il y a quand même une chose sur laquelle ils sont tous d'accord, les Républicains. Ils estiment qu'on ne peut pas faire totalement confiance à la gauche radicale d'Alexis Tsipras. Et ça, malheureusement, ça les divise. Le député de la Manche, Philippe Gosselin.
Il y a des doutes qui s'expriment et c'est ce qui se traduit chez nous par des votes contre, des abstentions, des votes oui, un peu résignés, ce qui est mon cas.
Le problème, en réalité, vient du fait que les leaders de l'ex-UMP ont pris des positions contradictoires, incompréhensibles. Nicolas Sarkozy, comme Alain Juppé. D'abord favorable à une sortie de la Grèce de la zone euro, et puis finalement dans un virage à 180 degrés, ouvert à un accord pour tenter de la sauver. Et pour le député Thierry Mariani, ça tient à un contexte politique typiquement français.
Vous savez, le drame, c'est que si vous voulez être présidentiable en France, il faut être pour l'Europe. Mais on ne sait plus d'ailleurs pour quelle Europe. Moi, je me souviens de Chirac au moment de Maastricht, qui avait appelé à voter oui. D'ailleurs, il l'avait dit très clairement après, parce que son destin présidentiel, il fallait absolument qu'il appelle à voter pour. Et le drame dans la vie politique française, si à un moment vous n'allez pas vous prosterner devant les autorités européennes en expliquant que c'est la seule possibilité, la religion unique, eh bien vous êtes étiqueté comme pas bon candidat. Je pense qu'à droite, c'est un peu hélas ce qu'on vit.
Ce vote, au bout du compte, montre qu'on ne sait pas bien quelle Europe on veut, quelle Europe on imagine chez les Républicains. Qu'à cela ne tienne, on verra plus tard. Il y a d'abord, en France, une élection présidentielle à remporter.
Et pour finir, cette première scientifique, une machine du synchrotron de Grenoble a permis à des chercheurs d'observer des embryons de lézards, embryons âgés de 125 millions d'années. C'est grâce aux rayons X que l'on a pu étudier ces embryons de lézards dans un œuf fossile. Et les chercheurs ont vu apparaître les dents et les vaisseaux sanguins de ces petits anêtres, le tout sans que soient abîmés les précieux fossiles. Sophie Becherel.
Ce sont de tout petits œufs semblables à ceux des moineaux. Quand les chercheurs français et thaïlandais les ont découverts lors d'une fouille dans le nord-est du pays, ils pensaient avoir affaire à un petit dinosaure carnivore ou un oiseau primitif. Mais les œufs ne ressemblaient à rien de connu. Seule une brèche dans l'un d'eux laissait supposer la présence d'os à l'intérieur. Pour préserver les précieux fossiles, il a été décidé de les passer au rayon X. Les œufs ont pris l'avion de Bangkok à Grenoble et après 12 heures sous le rayonnement ultra intense du synchrotron, l'intérieur est apparu. Surprise, ni dinosaure ni oiseau, c'est un lézard. Vincent Fernandez est paléontologue et c'est lui qui a mené l'analyse à Grenoble.
On a réussi à aller voir donc des petits détails comme les dents qui ne mesurent qu'un dixième de millimètre. Le crâne lui-même ne mesure pas plus de 5 mm, C'est cette résolution-là qui nous a permis de voir chaque petite protubérance osseuse, les canaux qui sont utilisés par la vascularisation ou par les nerfs, on arrivait à voir ce genre de choses.
L'intérêt de cette découverte, c'est qu'elle montre que ces lézards, dits anguimorphes, pondaient des œufs à coquille dure. Aujourd'hui, leurs descendants les plus proches, les orvets, les varans, les dragons de Komodo, pondent des œufs à coquille molle. Seuls les lézards grimpeurs, c'est-à-dire les geckos, ont gardé la coquille dure. Reste à savoir pourquoi.
Une journée sous le soleil et la chaleur, Météo France a lancé une alerte orange canicule dans le Rhône et des orages éclateront ce soir sur la Normandie. Dans l'après-midi, il fera 30 degrés à Caen et à Nice, 33 à Rouen comme à Bordeaux, 37 à Paris, jusqu'à 38 à Lyon.